Eh bien, bonsoir, frères et sœurs. Joyeuse fête des tabernacles à vous tous. J'espère que vous êtes bien installés, que le voyage pour aller là où vous êtes maintenant, pour commencer la fête, s'est bien passé pour vous, si vous avez dû voyager. Je sais que certains d'entre vous, vous allez être peut-être chez vous à cause des nécessités de la pandémie actuelle. Certains d'entre nous ne seront pas capables de voyager pour célébrer la fête en groupe. Mais dans tous les cas, je vous souhaite un excellent début de cette fête merveilleuse de l'Éternel. Je dois m'excuser ou demander votre pardon. Je suis assis, je souffre d'une sciatique actuellement. J'espère que je pourrai enregistrer un autre sermon debout dans quelques jours, mais pour cette fois-ci, je dois rester assis. Eh bien, comme j'ai dit, bienvenue à la fête des tabernacles 2020. Cette fête n'est pas comme d'autres fêtes des tabernacles que nous avons célébrées jusqu'ici, car avec la pandémie du COVID-19, nous avons dû nous isoler physiquement pendant un certain temps cette année. Nous avons vu nos assemblées sabbatiques perturbées de plusieurs manières. Nous nous sommes réunis parfois par webémission plutôt que d'être en personne les uns avec les autres. Et maintenant, nous débutons la fête des tabernacles dans des conditions qui ne sont pas ce que nous avons connu jusqu'ici comme normales. Nous sommes plutôt réunis dans de petits groupes. En France métropolitaine, en Martinique, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Burundi et à l'île Maurice. Nous sommes réunis dans des groupes allant de 2 ou 3 personnes jusqu'à plus de 650, si les prévisions sont correctes pour le Burundi, au milieu de pays et de cultures différentes dans divers endroits au monde. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ce que nous faisons en respectant, en nous soumettant aux instructions de Dieu pour observer ces jours saints, eh bien le fait de respecter et d'observer ces jours saints joue un rôle important dans l'accomplissement du plan de Dieu, le plan magistral de Dieu, d'abord pour l'Église et ensuite pour toute l'humanité. Nous savons que parfois de petits gestes qui peuvent passer inaperçus au plus grand nombre peuvent avoir une importance clé dans l'avenir pour un nombre parfois inattendu de personnes. Le grand physicien Albert Einstein a dit, vers la fin de sa vie, « Toutes les religions, tous les arts et toutes les sciences sont des branches du même arbre. Toutes ces aspirations visent à ennoblir la vie de l'homme, à la sortir de la sphère de la simple existence physique et à conduire l'individu vers la liberté. » Ainsi a dit Albert Einstein. Maintenant, M. Einstein a compris beaucoup de choses à propos de la science, moins de choses à propos de l'art et encore moins de choses à propos de la religion. Car nous comprenons à travers les Écritures que notre relation avec Dieu est bien plus importante que toute autre chose, y compris notre compréhension des sciences et des arts. Mais il est vrai en même temps que l'art, quand il se conforme à certains principes spirituels et moraux, vise effectivement à ennoblir la vie de l'homme. Les arts plastiques, tout comme la musique par exemple, peuvent libérer l'esprit humain de certains états d'âme, certains découragements, des habitudes mentales néfastes. L'art peut représenter parmi ce qu'il y a de meilleur dans une société ou dans une culture. Et cela m'amène à une histoire. En 1932, enseignante et diplômée, dessinatrice et peintre à 16 heures, Rose Vallant travaille comme attachée bénévole au musée de Jeux de Paume à Paris, où sont présentées les collections étrangères d'art contemporain. Elle participe à la préparation d'expositions temporaires très nombreuses dans les années 1930 et elle participe activement à la rédaction des catalogues. Ainsi commence un livre de l'auteur Corinne Bouchou intitulé « Rose Vallant, la résistance au musée ». Et ce livre raconte l'histoire de vie assez insolite de Rose Vallant. Ce livre raconte la vie et l'activité exceptionnelle d'une femme discrète, d'une présentation banale. Pourtant, elle a accompli de véritables exploits et de nombreuses fois elle a risqué sa vie. En dépit de ses origines modestes dans l'Isère, elle est devenue, chose peu banale à son époque, une historienne de l'art. Après un double cursus à l'École des Beaux-Arts de Paris et à l'École du Louvre. Rares étaient les femmes à faire ça dans les années 30. Elle apprend que l'hiérarchie administrative française observe l'évolution du contexte international et s'inquiète de la montée des périls, évidemment avec la montée du nazisme en Allemagne. En 1936, est édifié un plan d'évacuation des œuvres d'art pour sauver des collections publiques en cas de besoin. Toute la guerre, évidemment, s'accompagne de pillages et de vols, mais dans ce cas, le cas de l'Allemagne hitlérienne, cette question préoccupe encore plus que d'habitude, parce que l'art occupe une place centrale dans l'obsession nazie, et le mot n'est pas trop fort. Hitler veut, par exemple, éliminer des tableaux peints par les Juifs. Il veut faire disparaître l'art moderne. Et il veut aussi récupérer tout ce qu'il considère comme l'art germanique, d'où quelles que soient ses origines. La vie de Rose Vallant bascule dans l'été 1939, à l'approche et au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Entre le mois d'août et décembre 1939, une quarantaine de convois de camions acheminent les collections de Paris vers une quinzaine de châteaux, dont Chambord, entre autres. Au cours de l'été 1940, il y a encore de nouvelles évacuations des chefs-d'œuvre vers la province. Plus au sud de la Loire, puisque le 14 juin, les Allemands s'installent à Paris. Donc, il fallait les acheminer de plus en plus vers le midi de la France. Seul, parmi les Français au musée, Rose Vallant est invitée à rester au Jeu de Paume comme attachée à l'armée allemande. Dès 1940 et jusqu'à la libération de Paris, fin août 1944, Rose Vallant est la seule responsable française au Jeu de Paume. Là, elle consigne sur de petits carnets toutes les visites des nazis, à commencer par celle de Göring, grand amateur d'art, après chaque spoliation, pour puiser parmi les tableaux. Au début, il s'agissait de tableaux pris aux Juifs et les œuvres d'art alsaciennes, maintenant considérées comme allemandes. Mais plus la guerre avançait, plus les Allemands s'emparaient de tout ce qu'ils voulaient. Certaines œuvres étaient destinées à un grand musée de l'art prévu en honneur d'Adolf Hitler à Berlin. D'autres étaient détournés par des militaires haut placés vers leurs collections privées. Tout cela a eu lieu. Et pendant tout cela, Rose Vallant, toujours discrète, prend des notes et passe ses informations à la résistance. Elle note les œuvres, leur destination. Elle note les cachettes prévues par les Allemands. Noter et préserver de telles informations était bien entendu interdit. Elle risquait sa vie à le faire. Mais elle avait à cœur de préserver ses trésors de l'art occidental, de l'art de la civilisation européenne. Et elle a réussi, au-delà de toute espérance, non seulement cela, mais elle a survécu jusqu'à la fin de la guerre. Peu avant la libération de Paris par les Alliés, des Allemands ont rempli un train de grandes œuvres pour les envoyer in extremis en Allemagne. À l'aide de Rose Vallant, la résistance a réussi à attarder ce train, puis de frustrer complètement ce dernier départ. Et si cela vous intéresse, c'est le sujet d'un film de 1964, Le Train, réalisé par John Frankenheimer, et dont les interprètes étaient Burt Lancaster et Jeanne Moreau, entre autres. Après la guerre, elle était tout de suite arrêtée, soupçonnée d'avoir collaboré avec les Allemands. Mais finalement blanchie, ses carnets ont permis la récupération de milliers de chefs-d'œuvre de partout en Europe, une opération qui a pris presque 10 ans après la fin de la guerre. Certaines œuvres étaient cachées en zone soviétique. Et après avoir appris que quand on demandait un tableau aux Russes, cela ne servait qu'à leur indiquer qu'il y avait quelque chose de valable à garder pour eux, quand les Russes insistaient qu'ils n'avaient rien trouvé de ce qu'elle avait mentionné, Roosevelt n'hésitait pas à partir solo en zone soviétique en mission secrète déguisée pour ramener ses chefs-d'œuvre à Paris en personne, ce qu'elle a fait de nombreuses fois. Les œuvres récupérées, non sans grand risque pour elle. Pendant l'occupation allemande, ses activités passaient complètement inaperçues. Il le fallait bien. On ne se doutait de rien. Elle ne semblait être qu'une petite pièce dans une énorme machine. Mais elle travaillait à préserver ses trésors de l'art occidental, de maintenir des éléments de la grandeur de sa civilisation. Et après des années de danger, de solitude, d'efforts clandestins, ses activités ont finalement été révélées au monde. Frères et sœurs, je commence mon sermon ce soir par cette histoire, parce que par analogie, vous et moi, nous sommes aussi appelés à préserver des trésors. Non pas des trésors de l'art occidental, mais des trésors de la connaissance divine, des trésors de la vérité préservés dans la Bible pour le bien-être de l'humanité. Les fêtes annuelles que nous observons d'année en année sont autant de trésors qui révèlent les profondeurs du Créateur de l'univers, les profondeurs de Dieu, les étapes dans son plan de salut divin. Si l'Église n'observait pas ces jours, leur signification pourrait se perdre. Cela s'est déjà produit de par le passé, on en parlera dans un instant. Ce que nous faisons par les simples gestes de participer, d'observer, de respecter les fêtes de l'Éternel, y compris la fête des tabernacles, nous sert de rappeler les significations profondes de ces jours, d'approfondir notre compréhension et de notre désir de les voir réalisés. Cela est renforcé d'année en année. Si ce n'était pour cela, pour ces simples gestes, tout simples par des gens pas très nombreux, eh bien, cette connaissance pourrait se perdre, pourrait sombrer dans l'oubli. C'est grâce à Dieu, évidemment, que cela ne se fera pas. Mais vous et moi, nous avons notre rôle à jouer, en soumission à la volonté de Dieu, notre Créateur. Et nous sommes réunis ce soir pour recommencer cela encore une fois. Les vérités bibliques sont comparées plusieurs fois dans la Bible à des trésors cachés que le monde ignore, mais que le peuple de Dieu peut saisir et comprendre. Prenons Psaume 119, verset 162. Psaume 119, verset 162. Psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. La Bible est comparée, les vérités de la Bible sont comparées à des trésors cachés. Et on trébuche dessus, on tombe dessus, on les voit et on se réjouit de les comprendre parce que l'humanité en général ne comprend pas, est incapable de comprendre, de saisir ces vérités. Pourquoi sommes-nous ici-bas, nous autres, êtres humains? Quel est le but de la vie humaine? Comment est-ce que nous pouvons réussir? Comment atteindre notre destinée? Quelle est notre destinée? Toutes ces vérités, ces questions que l'humanité se pose depuis des milliers d'années, les réponses, ces trésors se trouvent dans la parole de Dieu. Et nous pouvons comprendre. Dieu nous a ouvert l'esprit pour nous permettre de comprendre. Prenons aussi Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu chapitre 13, verset 44. Il y a plusieurs paraboles ici qui soulignent, toutes les paraboles soulignent cette analogie de vérité biblique comme des trésors cachés. Matthieu chapitre 13, verset 44, jusqu'au verset 49. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume de Dieu ici dans ce contexte, c'est la connaissance du royaume de Dieu. Le fait de comprendre ce que c'est et comment nous pouvons l'atteindre. Nous trouvons ça dans la Bible. Et quand nous trouvons ce trésor caché, nous sommes prêts à nous séparer de tout le reste de la vie afin de pouvoir poursuivre ce but-là. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il n'y avait rien d'autre de plus important que ce trésor caché. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Nous cherchons dans la Bible, nous trouvons ce qui est bon, les vérités à propos du royaume de Dieu, le plus grand but qui existe. Et nous nous concentrons pleinement sur l'accomplissement, sur le fait d'atteindre ce but-là. Ce sont des trésors cachés dans la Bible. Et quand il est question du royaume de Dieu, c'est ce que nous voyons ici, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, eh bien, comment y arriver, comment y parvenir? Eh bien, ce sont les étapes qui nous sont expliquées par les fêtes annuelles de l'Éternel. Chaque fête représente une autre étape que nous devons comprendre et par laquelle nous devons passer pour pouvoir gagner accès finalement au royaume de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, presque le monde entier actuellement, et sur le chemin de la perdition. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Si nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor, la connaissance, l'Esprit de Dieu aussi qui nous donne finalement. Nous portons tout cela dans des vases de terre, nos corps. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire de nous-mêmes, de comprendre la signification des fêtes de l'Éternel, d'avoir la force de persévérer dans ce chemin. La gloire est à Dieu. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est un trésor, ce que Dieu nous révèle. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non pas dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. La mort en nous, puisque nous sommes des êtres mortels, Mais la vie agit en nous par la présence de Dieu, par sa vérité, par son esprit qui nous anime de l'intérieur et qui nous permet de persévérer, comme j'ai dit, dans ce bon chemin. Herbert Armstrong, dans son autobiographie, explique que quand il a découvert, quand Dieu lui a ouvert l'esprit à la vérité concernant les fêtes annuelles, quand ils ont compris qu'il fallait les observer toujours, ils les ont observées tout seuls pendant 7 ans avant de comprendre leur signification. La première chose qu'ils ont découvert, c'est qu'il fallait les observer. Mais ils n'ont pas compris pourquoi. Cette connaissance de la signification des fêtes avait été perdue à l'Église de Dieu pendant on ne sait pas combien de temps. Et là, Dieu lui a ouvert l'esprit du nouveau pour qu'il puisse comprendre. Après avoir observé ces fêtes pendant 7 ans sans comprendre leur signification, alors là, Dieu lui a fait comprendre petit à petit leur sens, les étapes dans le plan de Dieu de salut. C'était une redécouverte, on peut le dire, après on ne sait combien d'années d'oubli parmi les membres de l'Église de Dieu qui ne disparaît jamais. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Mais ça ne veut pas dire que certains aspects de la vérité, certains aspects du plan de Dieu ne puissent pas être perdu, oublié. Certaines de ces vérités pourraient se perdre et se perdraient si on ne les observait pas d'année en année. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois comment, quand j'étais étudiant à la Bachelor College, M. Armstrong nous a dit que si jamais on arrêterait d'observer les fêtes annuelles, on oublierait leur signification. Et je vous ai expliqué plusieurs fois. J'étais respectueux, mais sceptique, je dois l'avouer. Je me disais en moi-même, mais M. Armstrong, quand même, la signification de ces fêtes est tellement claire, révélée dans la Bible, même si on arrêtait de les observer, mais je ne vois pas comment on pourrait oublier leur signification. Eh bien, je vous ai dit aussi que par la suite, je l'ai vu de mes propres yeux. Des camarades de classe qui étaient assis avec moi, en même temps que M. Armstrong nous a dit ces choses-là, et à ce moment-là, ils avaient compris ces choses. Et après, pendant les périodes troubles, quand beaucoup de gens ont abandonné cette connaissance, ont abandonné ces pratiques, eux aussi, ils l'ont fait. Et quand on a quelques contacts avec eux maintenant par les médias sociaux, eh bien, ils ne comprennent plus les étapes dans le plan de salut de Dieu. Ils ne comprennent plus la signification de ces fêtes. Ils ont arrêté de les observer, et là, le voile est retombé devant leurs yeux. Ils ne comprennent plus. Ils ont perdu cette connaissance. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que par le simple fait de respecter scrupuleusement d'année en année ces fêtes, le fait de venir nous assembler, le fait de revoir ces choses ensemble, d'en reparler, nous gardons vivant cette connaissance qui avait été perdue pendant un temps et qui a été retrouvée. Le sens des fêtes est clair. Mais si on arrêtait de les observer, on finirait par oublier cette connaissance, ce trésor de la connaissance spirituelle de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes encore une fois ici, même dans des conditions différentes de d'habitude, plus difficiles pour certains d'entre nous d'observer ces fêtes. Mais nous le faisons par obéissance à notre Père Céleste et pour maintenir vivante cette connaissance. Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu chapitre 13, verset 19. Satan veille, il nous guette. Il voudrait nous enlever cette connaissance. Et la Bible indique qu'il en a la possibilité selon les conditions. Si les conditions sont bonnes, Satan peut enlever une certaine compréhension. Matthieu chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, parce qu'il ne met pas en pratique ce qu'il faut. La compréhension dépend très souvent, le plus souvent, de l'obéissance. Dieu nous fait comprendre qu'il faut faire une chose, comme il avait fait avec M. et Mme Armstrong, il faut observer les fêtes. Ils n'ont pas compris pourquoi, mais ils l'ont fait, ils ont obéi, et là, la compréhension est venue. Et si jamais on arrête d'obéir à une chose qu'on voit dans la Bible, on va, petit à petit, oublier cette connaissance. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Satan peut venir et enlever quelque chose de notre cœur si nous permettons que les conditions soient propices à cela, si nous ne faisons pas attention. Satan est capable de voler certains trésors spirituels, comme les nazis ont fait avec les chefs-d'œuvre de l'art en France et en Europe. Alors, frères et sœurs, c'est à nous de garder précieusement et scrupuleusement ces trésors, les trésors de la connaissance spirituelle, de les noter, de les localiser, de nous en souvenir, pour pouvoir transmettre cette connaissance à d'autres, à la génération suivante, et ainsi de suite jusqu'au retour de Christ, de les préserver afin de pouvoir les restaurer au moment de la libération spirituelle à venir. Et nous allons pouvoir le partager avec toute l'humanité au début du royaume de Dieu. Mais Satan veille et il nous guette. Et il voudrait enlever de notre cœur ces trésors spirituels, si nous le permettons. Si nous le permettons. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Les anges désirent plonger le regard. Verset 13, c'est pourquoi signez les reins de votre entendement. Soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera portée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Plusieurs éléments fascinants dans ce passage. Ceux qui ont préservé ces éléments dans la Bible pour nous, qui nous permettent maintenant de comprendre la signification des fêtes, ceux qui les ont préservés, pour nous, n'ont pas tout compris. Ils ont entrevu une partie, mais ils n'ont pas tout compris. Ils n'ont pas compris aussi clairement que nous pouvons le faire maintenant. Et même les anges ont désiré plonger leur regard dedans. Apparemment, il y avait certains éléments qui même n'étaient pas disponibles aux anges. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je l'ignore. Mais au moins, pendant un temps, c'était comme ça. Les anges aimeraient pouvoir comprendre ce que nous pouvons comprendre. Et à l'époque, ils ne pouvaient pas. C'est très précieux ce que nous avons à notre disposition. Nous sommes probablement à l'époque maintenant où nous pouvons plus pleinement que jamais auparavant dans le passé comprendre en tant que peuple de Dieu la signification de ces fêtes, dans beaucoup de détails qui n'étaient pas clairs auparavant. Quel privilège pour nous que de pouvoir vivre cette époque. Mais c'est aussi une responsabilité de préserver ces choses, de préserver ses trésors. Malachie, chapitre 3, verset 16. Malachie, chapitre 3, verset 16. C'est précieux pour Dieu. Et Dieu observe notre comportement. Il observe notre cœur. Est-ce que nous avons vraiment à cœur de parler de ces choses, de garder vivant cette connaissance en nous? Malachie, chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Dieu écoute nos conversations. Il observe dans nos cœurs la passion que nous avons pour la vérité de son plan, l'évangile du royaume de Dieu, et comment nous pouvons y parvenir. Tout cela fait partie de cela. Dieu veille. C'est très important à ses yeux, ces vérités-là qu'il nous a confiées et que nous sommes en train de raviver maintenant par notre participation à la fête des tabernacles. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 25, ceci est marqué. Je vais vous le citer, Apocalypse 2, 25. « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ne perdez pas, ne laissez pas tomber ce que je vous ai donné, cette compréhension, cette vérité, ces trésors spirituels que je vous confie. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que nous avons, frères et sœurs, nous devons le retenir. Et nous le faisons en observant ces jours, selon les instructions que Dieu nous donne. En observant la fête des tabernacles, quelle que soit notre situation et nos conditions, eh bien nous gardons vivant en nous cette vérité, cette connaissance, ces trésors. Philippiens chapitre 2, verset 14 aussi, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, en travaillé en vain. Dans la version Martin, nous lisons ceci, au verset 15. « Afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu de la génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous relisez, comme des flambeaux au monde, qui portent au-devant d'eux la parole de vie. » Ils portent au-devant d'eux la parole de vie, la vérité de la Bible. Dans certaines traductions en anglais, le mot porter, c'est plutôt le mot accrocher. Il s'accroche à cette vérité. Il s'accroche, il ne veut pas laisser tomber, il ne veut pas le perdre. Il veut garder précieusement ses trésors dans la connaissance de Dieu. Et Hébreux chapitre 3, verset 5. Hébreux chapitre 3, verset 5. Hébreux 3, verset 5. « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Frères et sœurs, les fêtes de l'Éternel concernent cette confiance et cette espérance que nous avons dans l'avenir, que le royaume de Dieu sera établi, que les trompettes vont annoncer le retour de Jésus-Christ et qu'après le retour de Christ, il y aura le règne millénaire de Jésus-Christ que nous commençons à célébrer ce soir, quand le monde sera refait, le monde sera révolutionné et les êtres humains sur terre pourront vivre dans un paradis que l'homme n'a pas connu depuis le jardin d'Éden. Nous gardons cet espoir, cette espérance, en respectant la volonté de Dieu, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. C'est ce que nous faisons en observant la fête des tabernacles et les autres fêtes d'année en année. Nous devons garder cette espérance. Et mes frères et sœurs, vous aidez à préserver, à garder cette espérance, à préserver ces trésors spirituels, et vous aidez à transmettre cela de génération en génération, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Grâce à l'œuvre de Rose Vallant et d'autres qui ont travaillé avec elle, plus de 30 000 œuvres rentrèrent en France après la guerre. 7 000 aux Pays-Bas, d'autres milliers en Belgique et en Autriche. Et elle a même, parce que son grand intérêt, c'était la justice pour ses objets d'art, elle a même restitué des œuvres aux musées, aux particuliers allemands, quand ces œuvres-là étaient perdues ou volées après la guerre. Elle a reçu l'ordre de la Légion d'honneur, ainsi que plusieurs autres décorations de la France, des États-Unis et même de l'Allemagne, revenue à la raison, une Allemagne revenue à la maison. Elle a écrit un livre elle-même à ce sujet qui s'appelle « Le front de l'art », dans lequel elle ne se présente pas comme une héroïne. Mais elle a dit quelque chose d'intéressant à la fin. Elle a dédié son ouvrage à, et je cite maintenant, « tous ceux qui luttèrent pendant la dernière guerre pour sauver un peu de la beauté du monde. » Ceux qui luttèrent pour sauver un peu de la beauté du monde. Son histoire à elle, c'est une histoire d'engagement, de finesse, de patience, de courage, afin de préserver des chefs-d'œuvre de l'art occidental, pour les transmettre à des générations futures, leur transmettre ces trésors de la culture européenne. Frères et sœurs, vous et moi, et nos frères et sœurs de par le monde, quelle que soit la langue qu'ils parlent, quelle que soit leur culture, nous continuons notre engagement. Maintenant, encore une fois, par notre obéissance et observance de ces fêtes, à garder ces trésors de la connaissance divine. Nous luttons pour sauver un peu de la beauté, non pas de ce monde, mais du monde à venir. Joyeuses fêtes.